Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culturellement Vôtre sur notre radio RVE. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur François de Curel, propriétaire du château de Saint-Jean de Beauregard. Monsieur de Curel, bonjour.
Bonjour Annick.
Alors, vous êtes le propriétaire d'un château magnifique, le château de Saint-Jean de Beauregard, qui se trouve dans la ville de
Saint-Jean de Beauregard.
Donc c'est un château assez ancien. De quand date-t-il exactement ou de quand date la propriété de Saint-Jean de Beauregard?
Alors, juste Saint-Jean de Beauregard, c'est juste à côté des Ulysses. Hein. C'est plus simple pour trouver. Et donc, juste à côté des Ulysses, il y a un grand contraste parce qu'il y a un vieux château qui date du début du XVIIe siècle et en fait qui prend la suite d'un petit château fort auparavant. Donc c'est un endroit qui est habité de très longue date.
Donc depuis le XIIIe siècle, si je crois
oui,
le rappeler.
Oui, XIIe siècle, même le château fort. Mm-hmm. Mais le château actuel date du début du XVIIe siècle.
D'accord. Donc ce château a eu de nombreux propriétaires avant d'arriver dans les mains de votre famille. Nombreux propriétaires, certains ont marqué le lieu. Je pense notamment à un monsieur qui s'est porté acquéreur du domaine. Si mes souvenirs sont bons, nous sommes là sous Louis XIII, donc nous sommes au début du XVIIe siècle. Il a fait quelques travaux, ce monsieur. Alors, il s'appelait, comme vous, François?
Oui, mais il s'appelait monsieur Dupoux, François Dupoux. Il a fait quelques travaux parce qu'en fait, il a acheté les bâtiments qui existaient et il les a très profondément transformés et même il a complètement construit le château actuel en gardant des éléments anciens et en particulier le pigeonnier. Mais donc oui, c'est l'un des grands personnages de Saint-Jean, même si son passage à Saint-Jean a été relativement court.
Oui, alors effectivement, parce que dans mon souvenir, il était très proche d'une personne sous Louis XIII qui a très mal fini. Vous pouvez nous
vous
en parler un petit peu.
Vous parlez sans doute de M. Concini.
C'est ça fait. C'est lui.
Monsieur Concini a très très mal fini, effectivement. Il faisait partie de ces Italiens arrivés dans les jupes de la reine Médicis, l'une de nos deux reines Médicis, et il s'est rendu tellement insupportable auprès de la population et du jeune roi Louis XIII, et on considère que c'est l'une de ses premières décisions aurait, puisqu'il n'y a pas de certitude absolue, mais aurait décidé de faire assassiner Concini sous les guichets du Louvre. Non contente de la mort de M. Concini, la population parisienne a traîné son cadavre dans les rues. On imagine fin plus paisible.
Alors, après le décès prématuré de Concini en 1617, je crois me rappeler, qu'est-il arrivé à ce fameux propriétaire, M. Dupoux?
Alors, rassurez-vous pour lui, il a fini paisiblement sa vie, mais malheureusement ruiné et ayant dû se dessaisir de son nouveau château de Saint-Jean de Beauregard, inachevé. Donc le château dont la construction a commencé en 1610, la construction sera terminée en 1637. C'est une période inhabituellement longue pour la construction d'un château de taille moyenne.
Fini par les autres propriétaires.
Oui, absolument.
D'accord.
Et ce qui explique, quand on le regarde, on a vraiment l'impression de voir un château extrêmement classique, avec une façade très plaisante en grès et un tout petit peu en enduit, mais enfin principalement en grès. Mais en fait, en regardant bien, on voit bien l'évolution du style entre le début de la construction et la fin de la construction.
Avant de reparler de l'architecture, Saint-Jean de Beauregard, c'est toujours appelé Saint-Jean de Beauregard?
Non. En fait, c'est François Dupoux, lorsqu'il décide de construire un château à la mode, demande l'autorisation de changer le nom. Hein, aujourd'hui encore, si vous voulez changer de nom de famille, il faut passer par le Conseil d'État pour demander l'autorisation. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Et pourquoi changer le nom? Eh bien, parce que le nom d'origine de Saint-Jean de Beauregard, c'était Montfaucon. Si vous réfléchissez, les deux noms sont liés au fait que nous sommes sur une hauteur, puisque les rapaces nichent sur les hauteurs pour observer leur proie. Et Saint-Jean de Beauregard fait référence au fait qu'il y a une jolie vue. Et pourquoi changer le nom? Eh bien parce que le nom de Montfaucon était devenu sinistre dans la mesure où c'était aussi le nom du gibet de Paris, qui bien sûr n'était pas du tout à cet endroit-là. Le gibet de Paris était dans l'actuel parc de la Villette à Paris. Mais pour quelqu'un qui voulait construire un nouveau château, ce nom était vraiment très déplaisant.
Et on donc, peut comprendre. Hein.
En quelques années, le nom est passé de Montfaucon à Saint-Jean de Montfaucon et puis à Saint-Jean de Beauregard.
Très bien. On parlait tout à l'heure de l'évolution de, sur la construction hein, du château. Donc, on part d'un petit bâtiment au XVIIe siècle. 37 ans, c'est ça? Vous avez dit 37 ans de construction?
Oui.
Alors, il y a différents styles artistiques
27
dessus.
Ans.
27 ans, pardon. Donc, il y a différents styles architecturaux dessus?
Oui, en fait, tout ça est à l'époque, on savait construire. Donc, tout ça est très bien fondu. Et si je n'attire pas l'attention sur la façade et sur cette évolution, il est très probable que vous ne la discerniez pas. Mm-hmm. Mais on peut voir tout de même les pavillons les plus élevés qui ressemblent encore un peu à des tours stylisées, qui sont des pavillons marteaux, donc plus larges à la base qu'au sommet, avec des pierres saillantes, un peu comme au Sénat à Paris. Donc ça, c'est encore un peu... Enfin, quand on regarde l'ensemble de la structure, ça paraît un peu archaïque. Et puis le reste de la structure, le centre de la façade, en particulier, est presque déjà du style Louis XIV. On passe presque du style Henri IV au style Louis XIV. Si j'ose dire, vous n'y voyez que du feu.
Oui, si on n'a pas l'œil averti.
Exactement, parce que toutes les façades ont été harmonisées. Il reste une partie du vieux château, qu'on appelait un hôtel seigneurial, et dont les façades ont été harmonisées, donc on ne se rend pas compte que c'est en fait une construction beaucoup plus ancienne, de même que le pigeonnier, c'est un pigeonnier tour, et en fait des pigeonniers, on en a construit sous cette forme-là pendant plusieurs siècles. Donc ce pigeonnier est en fait connu depuis le XVIe siècle, mais il aurait tout à fait pu être construit au XVIIe en même temps que le reste du château. Nous savons simplement qu'il préexistait au château actuel.
Très bien. Alors, vous nous parliez du style Louis XIV. Donc, je vous propose de faire une pause et de revenir justement sur l'un des personnages propriétaires du château à l'époque du Roi Soleil. Nous voilà de retour avec Monsieur François de Curel, propriétaire du château de Saint-Jean de Beauregard. Nous étions en train de parler un petit peu d'architecture, de personnalités qui ont été propriétaires du château. Nous arrivons au grand siècle, sur la fin du règne du Roi Soleil, donc nous sommes là au début du XVIIIe siècle, avec un propriétaire qui a remodifié un petit peu le château. Il s'agit d'une femme.
Oui, l'autre grand personnage de Saint-Jean avant la Révolution, c'est Madame Charron. Son mari avait été receveur général des domaines, donc un poste très important, et donc c'est lui qui achète, mais elle devient veuve relativement rapidement, et elle aura un rôle très important à Saint-Jean. C'est elle qui remodèle en particulier tout l'aménagement intérieur. Mmh. L'état actuel des salons qui sont ouverts à la visite, c'est à elle qu'on le doit. Donc, elle recompartimente les salons, hein, suivant la mode de la fin du XVIIIe siècle, du milieu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est évidemment un mode de circulation un peu différent de celle du début du XVIIe siècle, même si l'enfilade de pièces est restée identique à celle de l'origine.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait comme modification au niveau du château?
Oh, c'est principalement toutes les boiseries et les dorures qui datent de cette époque-là. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la décoration des pièces et le mobilier, date de la fin du XVIIIe siècle.
Au niveau de la façade, elle a fait des modifications?
Alors, probablement, mais on ne sait pas exactement quelle a été l'importance de ces modifications. Ce que l'on sait, c'est que à l'origine, l'entourage des fenêtres était fait de dés de grès qui restent en place, qui sont toujours visibles, et de briques. Et ces briques ont été martelées, elles ont été réduites en épaisseur de façon à accroître l'importance de l'enduit. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit la façade, on ne voit plus que de l'enduit beige en sable et chaux, comme à l'époque, et des pierres de grès. Alors qu'à l'origine, il y avait en plus un petit peu de briques dans l'entourage des fenêtres. Et ça a disparu, ça a probablement disparu à cette époque-là.
Alors, vous aviez parlé il y a quelques instants, de la Révolution. Il s'est passé quelque chose au niveau du château, au moment de la Révolution ?
Alors, pas que nous sachions. Mm-hmm. Pas que nous sachions. On n'a pas tous les documents, parce que la propriété a été achetée plus tardivement par ma famille. Mais il n'y a aucun signe qui montre des dégradations, même symboliques, sur le château. Une des raisons, c'est que nulle part sur les façades, il n'y avait d'armoiries. Or, souvent, symboliquement, ce sont les armoiries gravées sur les façades qui ont été martelées pour faire disparaître les signes de l'aristocratie.
Justement, vous parliez de votre famille. Vous descendez d'une illustre famille, importante dans l'histoire, puisqu'il s'agit des Caraman.
Oui, j'ai une grand-mère Caraman, dont le nom patronymique est Riquet de Caraman. Mmh. Et c'est cette famille qui achète Saint-Jean de Beauregard vers 1875 et qui rassemble une partie des souvenirs de famille qui étaient jusqu'alors dispersés dans plusieurs maisons. Et l'histoire de cette famille est liée à un personnage très connu, surtout dans le Midi, mais enfin, même au nord de la Garonne, on a entendu parler de Pierre-Paul Riquet, qui est le créateur du canal du Midi. Eh bien, nous avons la chance à Saint-Jean-de-Beauregard d'avoir conservé beaucoup de souvenirs de cette famille, et en particulier les portraits jusqu'au milieu du XXe siècle des personnages marquants de cette famille.
Alors, on va rester un petit peu sur les Riquet de Caraman, descendants de Pierre-Paul Riquet de Caraman, vous venez de le dire. Donc, parmi les descendants de Pierre-Paul Riquet de Caraman, il y a de grands personnages. Je pense notamment à Maurice Riquet de Caraman, non ?
Oui, oui, absolument. Il y a plusieurs grands personnages. L'arrière-petit-fils de Riquet a été un des personnages importants à la cour du roi Louis XV et surtout du roi Louis XVI. C'était un grand militaire, mais c'était également un diplomate. Grand militaire, parce qu'à la fin de l'Ancien Régime, il avait été désigné pour être le général commandant de l'armée française en cas d'attaque extérieure, en cas de guerre extérieure. Mais c'était aussi un homme qui composait de la musique. C'était un homme qui était gouverneur général en Provence. C'est lui aussi qui a dessiné les jardins du hameau de la Reine, même s'ils ont été réalisés par le jardinier en chef de Versailles, Richard Mick, mais c'est le seul plan connu des jardins du hameau de la Reine qui ont été rachetés récemment par le château de Versailles. C'est au comte de Caraman qu'on les doit.
Voilà, c'était Victor Maurice.
Victor Maurice, oui. Victor, beaucoup de membres de la famille Caraman se sont prénommés Victor parce qu'ils descendent du premier maréchal de Breuil et qu'ils s'appelaient Victor.
Alors, le maréchal de Breuil, pouvez-nous resituer un petit peu pour nous-mêmes ?
Oui, voilà, nous sommes sous Louis XIV, la famille Breuil, dont je descends très lointainement, mais enfin, est évidemment, vous le savez, une des familles les plus brillantes en France, même si c'est une famille d'origine italienne, puisqu'elle a donné 3 maréchaux de France et un président du Conseil, donc entre autres, et 2 prix Nobel. Donc c'est une des familles les plus brillantes, et voilà, et en souvenir, beaucoup de membres de la famille Caraman ont gardé ce prénom Victor.
Et il y a un autre personnage qui était très lié, si mes souvenirs sont bons, avec l'Autriche.
Oui, enfin, le fils du comte de Caraman a émigré d'ailleurs comme son père, qui est revenu mourir à Paris en 1807. Mais le fils, lui, avait émigré, ça aurait été plus confortable vers l'Angleterre, mais tous ceux qui sont partis vers l'Allemagne ont dû reculer devant l'avance des troupes napoléoniennes. Et lui représentait le futur Louis XVIII, donc le comte de Provence, auprès du tsar de Russie. En récompense de ses services pendant la Révolution et après ça, les guerres napoléoniennes, au moment de la Restauration, il sera nommé ambassadeur de France à Vienne et il aura aussi l'immense honneur d'être fait duc de Caraman par le roi Charles X.
Et son fils,
alors, a une vie tout à fait particulière parce qu'il naît en Allemagne, son père et son grand-père ayant émigré. Il naît en Allemagne et il rejoint très jeune, hein, vers l'âge de 15 ou 16 ans, les troupes napoléoniennes. Au départ, il est un peu ostracisé parce qu'évidemment, on se méfie d'un fils et petit-fils d'émigrés. Et puis, il se distingue tellement par ses services que pendant 7 ans, Napoléon le prendra comme officier d'ordonnance et il restera fidèle à l'empereur jusqu'aux premiers adieux de Fontainebleau le 14 avril 1814.
Très bien. Je vous propose de faire une petite pause et de continuer sur l'histoire fascinante de la famille Riquet-Caraman. Nous sommes de retour dans Culturellement Vôtre sur RVE avec Monsieur François Ducurel. Nous étions en train de parler du château de Saint-Jean-de-Beauregard et notamment de la famille Riquet de Caraman, une grande famille descendante de Pierre-Paul Riquet de Caraman, le créateur du canal du Midi. Monsieur Ducurel, vous étiez en train de nous parler de vos aïeuls et nous allions aborder donc les personnages Riquet de Caraman, donc la famille de Caraman, au XIXe siècle. J'aimerais que vous nous parliez d'un personnage qui a quitté la France et qui s'est engagé dans l'armée, dont on retrouve les traces au moment de la prise de Constantine.
Oui, en fait, c'est toujours notre jeune officier d'ordonnance de Napoléon qui, on le sait, était un général stratège d'élite, mais avant tout artilleur. Et à bonne école, le jeune officier développe ses connaissances et devient général commandant l'artillerie de la garde à cheval, inspecteur général de l'artillerie pour l'armée française. Et en fait, il participe à la suite de son père, qui était diplomate, on l'a vu, ambassadeur, mais aussi avait rang de général. Et le père avait participé à la première campagne de Constantine, donc nous sommes là au début des années 1830, et c'est le début de la conquête de l'Algérie, et le fils, quelques mois plus tard, participe à la deuxième expédition de Constantine, qui elle sera victorieuse, et jusqu'en 1962, il y aura une rue de Caraman à Constantine. Et l'histoire, malheureusement, se termine un peu tristement pour le général de Caraman, puisqu'il meurt du choléra, comme une grande partie de l'armée française. Il y a eu, on se le rappelle, une épidémie de choléra qui, en fait, a franchi la Méditerranée et jusqu'en en Provence. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire des Caraman, en fait, qui, pendant deux ou trois générations encore, donnera des personnages d'élite.
On va continuer un petit peu sur cette histoire de famille. Nous étions donc là, nous sommes au XIXe siècle. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on a des éléments d'information historique sur la famille pendant la Première Guerre mondiale? Ou la guerre de 70, on oubliait celle-là aussi.
Oui, la guerre de 70, mais le fils du général de Caraman y participe comme officier. Et ensuite, pour Première Guerre mondiale, on arrive à la génération de mon arrière-grand-père et de son frère. L'un était mon arrière-grand-père, major de Saint-Cyr, son frère, major de Polytechnique. Et tous les deux, évidemment, servent pendant la Première Guerre mondiale. Mon grand-père ensuite quitte l'armée, mais son frère reste et termine colonel d'artillerie. Je descends de cet arrière-grand-père, c'est pour moi à ce stade que s'arrête l'histoire de la famille Caraman, qui se poursuit par ailleurs brillamment, puisque l'autre branche de la famille Caraman vit aujourd'hui en Belgique. Il s'agit des princes de Caraman et princes de Chimay, toujours propriétaires du château de Chimay, près de la frontière française.
Donc on a en fait une famille qui s'est scindée en deux, si je puis dire, une partie en Belgique, et une partie qui est restée en France, hein, c'est ça?
Oui, enfin, elle n'est pas partie en Belgique, c'est par alliance. En fait, les Caraman descendent d'une princesse de Chimay, dont les frères n'ont pas eu d'enfants, et donc le titre de prince de Chimay a été repris par le petit frère de l'ambassadeur à Vienne. Et ses descendants ont fait souche en Belgique, où ils ont là aussi eu des postes de premier plan, comme ministre des Affaires étrangères notamment.
Et il y a eu aussi des personnages qui se sont illustrés dans les ordres, dans cette famille. Émile Liétard, non, c'est ça?
Chez les Caraman, le plus connu, c'est effectivement l'abbé de Caraman, qui était un conseiller du roi Louis XV. Mais sinon, la famille d'Alsace des Liétard, prince de Chimay, a donné des personnages illustres, dont le cardinal primat des Pays-Bas, dont nous avons la chance d'avoir le portrait à Saint-Jean-de-Beauregard.
D'accord. Alors, nous allons poursuivre, parce que je trouve ça vraiment fascinant, sur cette histoire de famille. C'est assez rare d'avoir une famille qui s'illustre autant dans les différentes époques. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire, mais vous ne vous appelez pas Caraman, vous appelez Monsieur Ducurel.
Oui, parce que le nom n'est pas transmis par les femmes.
Et voilà.
Et donc,
il y a eu des
filles. Ma grand-mère a eu la riche idée d'épouser Louis Ducurel, qui était mon grand-père.
D'accord. Donc, au bout d'un moment, effectivement, la branche masculine s'arrête en France ?
Non. La branche masculine subsiste à la suite du cousin germain de ma grand-mère. Donc, il y a toujours un Caraman en France.
Ah, magnifique. Donc, il n'y a pas que la Belgique.
Il n'y a pas que la Belgique. Non. Tout à fait. La branche aînée est française.
Nous allons poursuivre. La Première Guerre mondiale, on l'a vu, la guerre de 70 aussi. En 39-45, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier au château de Saint-Jean-de-Beauregard ?
Oh, malheureusement, oui, c'est pas la période la plus brillante pour le château de Saint-Jean-de-Beauregard, parce que le château a été de longs mois occupé par une compagnie de SS qui a beaucoup abîmé la maison, surtout à l'intérieur. Beaucoup de décors, beaucoup de mobilier a été détruit, et mes arrière-grands-parents, qui avaient été tenus éloignés de la maison pendant cette période pénible, ont courageusement remis en état le rez-de-chaussée et le premier étage, mais une partie de la maison est restée dans l'état où les Allemands l'ont laissée.
Mmh. Alors, je vous propose de faire une petite pause, de nous retrouver dans quelques instants, puisque maintenant, vous êtes propriétaire du château de Saint-Jean-de-Beauregard, vous gérez le domaine magnifiquement bien. Je voudrais qu'on en parle un petit peu de Saint-Jean. Qu'est-ce que Saint-Jean ? Aujourd'hui, je vous propose d'en parler dans une minute. Nous retrouvons Monsieur François de Curel dans Culturellement Vôtre et le château de Saint-Jean-de-Beauregard à côté des Ulysses. Monsieur de Curel, nous allons aborder maintenant le château. Donc vous en avez hérité il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce que le château aujourd'hui ? Alors si je décide moi comme ça là d'aller visiter le château, qu'est-ce que vous me proposez ? Qu'est-ce que je vais découvrir ?
Eh bien, vous allez découvrir une merveille dans un environnement préservé. Et cela à l'extrême limite de la banlieue, puisque vous le rappeliez, Saint-Jean est situé juste à côté des Ulysses, au bord de la Nationale 118 et de l'autoroute A10, donc très facile d'accès. Et pourtant, dès que vous avez franchi la porte du parc, vous avez l'impression d'être en pleine nature.
Alors, ce parc fait combien d'hectares ?
Le parc fait 20 hectares, dont 2 hectares pour le jardin potager, qui est l'une des perles du château, puisque ce jardin potager de 2 hectares a gardé, pour l'essentiel, son plan du début du XVIIe siècle, et c'est en miniature le jardin du roi à Versailles. Donc, toute la partie de légumes a exactement le même dessin que le centre du jardin de Versailles.
Oui, que le centre du potager du roi. Exactement. De Jean-Baptiste de la Quintigny à Versailles, on se le rappelle. Très bien. Alors, un potager magnifique, vous y mettez donc des arbres fruitiers en espalier, en contre-espalier. Vous avez des serres aussi ?
Oui, en fait, ce jardin a une triple colonne vertébrale. Il est clos de murs. Les carrés de légumes sont entourés de contre-espalier de poirier. Alors, un contre-espalier, c'est un arbre qui est taillé, mais qui tient sur des fils de fer et non pas contre un mur. Mmh. Et puis, la troisième colonne vertébrale, ce sont des bordures de buis que l'on essaye de maintenir en vie. Oui. Vous savez que le buis est malade, oui. Et donc c'est un combat.
Alors, que faites-vous de toutes ces... Parce que 2 hectares de fruits, 2 hectares de légumes, vous en faites quoi ?
Eh bien, d'abord, on essaye de privilégier la diversité des légumes sur la quantité produite, et tout le personnel en profite. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui bénéficient des légumes du jardin, et des fruits, bien sûr, aussi. J'ai parlé de beaucoup de poiriers, il y a aussi beaucoup de pommiers dans le verger au fond du jardin. Et donc, lorsque nous avons une surproduction, eh bien, nous le donnons à des œuvres de bienfaisance.
Ah, magnifique. Alors, on continue sur les découvertes et les petites pépites du château. En rentrant, en pénétrant dans le château, que peut-on découvrir ?
Eh bien, vous rentrez, vous avez le portrait de 2 jolies dames face à vous. À votre gauche, vous avez une belle cage d'escalier d'époque Louis XVI. C'est un exemple des transformations de la fin du XVIIIe siècle. Une cage d'escalier majestueuse, compte tenu de la taille de la maison, avec là de grands portraits qui font plus de 2 mètres de haut, avec une partie de la famille Caraman, mais aussi le portrait du duc de Crillon. C'est un autre grand ancêtre. Et puis ensuite, sur la droite de l'entrée, on rentre dans les salons. Et là, nous avons toute une suite de pièces qui va de la salle à manger, en passant par le grand salon, un petit salon de musique, et puis deux belles pièces de bibliothèque. En fait, une des belles décorations de la maison, c'est la bibliothèque.
Et je crois savoir que vous avez des œuvres remarquables, des peintures de Cicéry.
Oui, la décoration du grand salon est principalement faite de grandes peintures murales qui sont attribuées à Cicéry, donc de la fin du 18e ou début du 19e siècle, qui sont des grandes toiles décoratives. Mais ce qui fait le principal agrément de cette maison, au-delà des toiles, des dessus de portes, des portraits de famille et du joli mobilier, c'est la luminosité. En fait, ce château est tout en longueur et est illuminé par des grandes baies vitrées, ce qui fait que même lorsque la journée est maussade, on a vraiment une impression d'une maison gaie.
Donc beaucoup de lumière qui pénètre dedans, un peu comme si l'intérieur et l'extérieur se renvoyaient la balle, finalement.
Oui, et c'est, évidemment, ça a tout son prix pour profiter de la vue. Puisque la vue de Saint-Jean-de-Borgard est tout à fait exceptionnelle. Elle porte à près de 50 km jusqu'aux environs de Melun, donc plein est, ce qui donne une exposition est-ouest au château. C'est une exposition très classique pour bénéficier au maximum de la lumière naturelle.
Alors, en dehors du potager, du pigeonnier, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un pigeonnier, et puis de l'intérieur du château, est-ce qu'on peut voir autre chose, découvrir autre chose, des manifestations, des événements particuliers?
Oui, bien sûr, Saint-Jean est très vivant. Bien sûr, vous pouvez venir le voir le dimanche après-midi, sans rendez-vous. Nous avons des guides d'élite, des guides nationaux, qui sont des guides qui, à d'autres moments, font visiter Versailles ou le Louvre, donc on a beaucoup de chance. Donc ça, c'est le dimanche après-midi, du 15 mars au 15 novembre, sans rendez-vous. Sur rendez-vous, les groupes peuvent venir, y compris en semaine. Nous avons aussi des groupes scolaires avec des jeux éducatifs qui tournent autour du jardin potager. Mais Saint-Jean est également connu, peut-être surtout connu, pour ses événements. Nous allons fêter l'année prochaine, au printemps prochain, au mois d'avril, le 40e anniversaire de notre fête des plantes de printemps. Nous organisons deux fêtes des plantes, une au printemps, au mois d'avril, l'autre fin septembre, qui vient de se passer, ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de monde. Et puis, le deuxième week-end de juin, nous avons également une très jolie exposition d'artisanat d'art. Ça fait trois beaux événements qui rythment notre année. Et puis, nous sommes en train de développer une activité réservée aux entreprises, des séminaires d'entreprise. On a réaménagé plusieurs salles, on a des tentes en extérieur pour recevoir des séminaires d'entreprise, soit des séminaires professionnels réellement pour travailler avec une bonne connexion Wi-Fi, soit évidemment des séminaires ludiques, puisque nous avons la chance d'avoir 20 hectares de parc et où toutes sortes de jeux peuvent être organisés.
Donc en fait, finalement, Saint-Jean aujourd'hui, c'est un domaine vivant, dynamique. On n'y va pas qu'une fois, Saint-Jean. On y revoit, on y retourne.
Absolument. D'abord, pour les amateurs de jardin, moi, j'en connais plusieurs qui viennent tout au long de l'année, parce qu'évidemment, le jardin évolue au fil des mois. Et nos événements, alors là, il y en a vraiment qui reviennent chaque fois, deux ou trois fois par an, donc pour tous nos événements, parce que
sont tous différents.
C'est une occasion formidable de rencontrer des professionnels. Évidemment, il n'y a aucun revendeur, ce sont uniquement des producteurs de plantes ou les créateurs d'artisanat d'art eux-mêmes qui vendent directement et qui peuvent expliquer comment ils ont fait. Donc c'est le meilleur conseil qu'on puisse rêver avoir.
Eh bien, écoutez, monsieur François de Curel, c'était vraiment fascinant. Si on veut aller à Saint-Jean-de-Beauregard, si on veut avoir plus d'informations sur le lieu, pouvez rappeler à nos éditeurs l'adresse peut-être du domaine?
Oui, www.info@châteaudesaintjeandebeauregard.com.
Tout attaché.
On peut pas faire plus simple sans abréviation.
Et profitez aussi quand on est là-bas du beau regard, c'est
profitez ça. Profitez du beau regard et regardez notre site si ça peut vous donner, si vous n'avez pas tout appris avec l'émission d'Annick, regardez notre site, il y a plein de choses et je suis sûr que vous aurez envie de venir.
Eh bien, je vous remercie, monsieur de Curel. On se donne rendez-vous à Saint-Jean. Au revoir et à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.